Auditeurs de Radio Albigès, bonjour. C'est le groupe Amnesty International d'Albi qui vous présente son émission mensuelle, les Chroniques amnestiennes, émission sur les droits de l'homme dans le monde. Aujourd'hui, Pascal et Jean-Marie animeront l'émission. Bonjour Pascal. Nous commencerons notre émission en revenant sur l'action des talibans qui s'attaquent aux droits humains en Afghanistan. Nous vous présenterons ensuite la situation d'Hossein Shahbazi, condamné à mort en Iran alors qu'il était mineur au moment des faits, et vous inviterons à signer la pétition pour demander l'annulation de cette exécution. Nous vous indiquerons le refus de l'ambassade de Chine de prendre en compte le droit des minorités musulmanes au Xinjiang en refusant de recevoir les pétitions signées par des milliers de personnes. Après une pause musicale, nous reviendrons sur le droit de manifester en France et l'absence de réponse d'Emmanuel Macron aux signataires des 110 000 pétitions qui lui ont été adressées. Continuerons par une bonne nouvelle pour l'attribution du prix Nobel de la paix à deux journalistes pour leur combat pour la liberté d'expression, et nous terminerons par deux informations sur la participation d'un collège de Gaillac au concours Plume Rebelle sur les droits de l'homme et l'opération 10 jours pour signer à Albi et Carmo en décembre prochain. Donc nous allons parler de ce qui se passe en Afghanistan et comment les talibans s'attaquent aux droits humains. Au pouvoir depuis moins de 6 semaines, les talibans démantèlent méthodiquement les avancées en termes de droits humains obtenues ces 20 dernières années. Un climat de peur règne dans tout le pays. Alors que les talibans ont martelé qu'ils respecteraient les droits des Afghanes et des Afghans, c'est bien au contraire une répression à grande échelle qu'on observe depuis la prise de Kaboul. Le rapport d'Amnesty International, l'Afghanistan est tombé aux mains des talibans, conduit avec la Fédération internationale pour les droits de l'homme et l'Organisation mondiale contre la torture, dévoile une longue liste d'atteintes aux droits humains. N'est-ce pas, Pascal ?
Oui, cette enquête montre le vrai visage des talibans. L'ensemble du peuple afghan subit des restrictions et des atteintes majeures à leurs droits. La liberté d'expression est attaquée de toutes parts, notamment via la répression des manifestations et des médias. Les femmes, déjà les grandes victimes du régime taliban en place de 1996 à 2001, sont de nouveau soumises à de multiples restrictions de leur liberté et à des représailles en cas de transgression. Le droit international a également été bafoué puisque des civils ainsi que des soldats qui s'étaient rendus ont été tués dans le Panjshir. Dans cette région, dernier bastion anti-taliban à être tombé, l'aide humanitaire fait face à un blocus. 5 semaines seulement après avoir pris le contrôle de l'Afghanistan, les talibans ont clairement démontré qu'ils ne comptent ni protéger ni respecter les droits fondamentaux.
Oui, donc les défenseurs des droits humains sont aussi pris pour cible. Les talibans pourchassent toutes les personnes engagées pour les droits humains. Pour survivre, celles-ci n'ont d'autre choix que d'entrer dans la clandestinité. Elles vivent sous la menace constante d'être arrêtées, torturées, voire tuées. Nous nous sommes entretenus avec Mahmoud, un défenseur afghan qui est parvenu à quitter le pays. Le jour où les talibans sont entrés dans Kaboul, il a reçu un appel lui demandant de remettre les véhicules, l'équipement et l'argent de son ONG. Son interlocuteur connaissait bien son nom et lui a ordonné de coopérer. Au cours des jours suivants, Mahmoud a reçu d'autres appels et messages, type WhatsApp, qui lui demandaient son adresse personnelle. Deux de ses collègues ont été frappés et fouettés par les talibans. Donc les défenseurs des droits humains sont attaqués sur tous les fronts, car ils sont considérés comme les ennemis par les talibans.
Oui, Amnesty note aussi bien sûr la persécution des journalistes. Deux femmes journalistes installées à Kaboul nous ont raconté les menaces et les actes d'intimidation qu'elles subissent depuis l'arrivée au pouvoir des talibans. Ayesha, qui a fui la capitale, explique que les talibans se sont rendus dans sa famille et ont menacé ses proches. Adila décrit la peur et l'incertitude qui régnaient durant les deux premières semaines du régime taliban. Elle avait décidé de rester en Afghanistan pour poursuivre son travail jusqu'à ce que les talibans arrivent chez elle une nuit et demandent à la voir. À force d'insistance, ses proches l'ont convaincue de quitter le pays. Les journalistes ont reçu des instructions des talibans. Désormais, ils doivent travailler conformément à la charia dans le respect des règles islamiques. Bien sûr, le droit des femmes et le droit de manifestation sont aussi atteints. Par crainte de représailles violentes, de nombreuses Afghanes portent aujourd'hui la burqa et s'abstiennent de sortir de chez elles sans un tuteur masculin. Malgré la myriade de menaces qui pèsent sur le droit des femmes à travers le pays, certaines continuent cependant à manifester. Alors, le Monde a publié un article le 9 octobre, « L'avenir englouti des docteurs de Kaboul ». Et donc, il raconte un peu l'histoire de deux femmes docteurs, Arifa et Shoran Ghez. L'une a réussi à fuir et se morfond sur une base américaine où elle ne peut exercer. L'autre est restée bloquée et rêve de quitter le pays avant que l'étau des islamistes ne la broie. Parcours brillant à l'hôpital français de Kaboul, interrompu brutalement avec l'arrivée des talibans au pouvoir. La plupart des manifestations ont été violemment réprimées par les talibans. Ainsi, le 4 septembre 2021 à Kaboul, une centaine de femmes ont été dispersées par les forces spéciales talibanes qui ont tiré en l'air et auraient utilisé des gaz lacrymogènes. Le 8 septembre, le ministère de l'Intérieur, désormais contrôlé par les talibans, a publié un décret interdisant toutes les manifestations et tous les rassemblements en Afghanistan jusqu'à ce qu'une politique en matière de manifestation soit codifiée. Amnesty demande au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies d'instituer un mécanisme d'enquête robuste et indépendant pour documenter les crimes relevant du droit international et mettre fin à l'impunité. Et que les civils afghans menacés doivent pouvoir sortir du pays et bénéficier d'une protection. La communauté internationale doit garantir des voies légales et sûres pour les réfugiés.
Nous nous transportons en Iran et nous allons reparler de la peine de mort qui a été un des sujets du mois d'octobre, puisqu'il y avait la journée mondiale contre la peine de mort le 10 octobre dernier. Il s'agit là d'un jeune qui a été arrêté, Hossein Shahbazi. Il a été arrêté et condamné pour un crime qu'il aurait commis à seulement 17 ans. Aujourd'hui, après 3 ans dans le couloir de la mort, son exécution est imminente. Il est âgé de 20 ans maintenant. Il a été déclaré coupable d'un meurtre qui s'est déroulé alors qu'il en avait 17. Son procès, une parodie de justice. Le jeune homme n'a pas pu consulter d'avocat à la suite de son arrestation et les autorités iraniennes l'ont condamné sur la base d'aveux obtenus sous la torture. Alors, quelle est son histoire? Il a été interpellé le 30 décembre 2018 et condamné à mort le 13 janvier 2020. Après son arrestation, il n'a pas été autorisé à consulter un avocat ni à communiquer avec sa famille pendant 11 jours alors qu'il était détenu et interrogé par le service des enquêtes de la police iranienne à Shiraz. Il a ensuite été transféré dans un centre de détention pour mineurs, et selon des sources, lorsque sa mère a pu enfin lui rendre visite, il avait des contusions au visage et semblait avoir perdu du poids. Il est actuellement incarcéré à la prison d'Abdelabad, dans la ville de Shiraz. Il a été reconnu coupable en partie sur la base d'aveux qu'il a, d'après son témoignage, livré après avoir subi des actes de torture et des mauvais traitements. Bon, la Cour suprême saisie a confirmé sa condamnation le 16 juin 2020. Dans le verdict que Amnesty a analysé, les autorités judiciaires ont reconnu qu'il avait moins de 18 ans au moment des faits, tout en soutenant qu'il avait atteint un développement et une maturité psychologique. La première exécution d'Hossein était prévue le 1er mars 2021. Elle a été repoussée grâce à une pression internationale. À nouveau, le 28 juin 2021, elle a été suspendue. Les autorités iraniennes l'ont reporté au 25 juillet 2021. Encore une fois, grâce à vos 22 000 actions, Amnesty a réussi à lui sauver la vie. Pour combien de temps encore? Son exécution a été suspendue à 3 reprises, temporairement. Bien sûr, elle pourrait bien sûr maintenant avoir lieu n'importe quand.
Prononcer la peine de mort contre une personne qui était mineure au moment du crime est une infraction odieuse des droits de l'enfant. Elle est aussi strictement interdite par le droit international. L'Iran continue d'imposer la peine de mort pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, en violation de ses obligations découlant du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la convention relative aux droits de l'enfant. Au moins 3 mineurs délinquants ont été exécutés en 2020 et de nombreux autres se trouvent dans le couloir de la mort. En 2020, l'Iran a procédé à au moins 246 exécutions, se plaçant ainsi au second rang des pays du monde où ont lieu le plus grand nombre d'exécutions. Avec Amnesty, exiger l'annulation de l'exécution d'Hossein Shahbazi. La pression internationale marche, nous l'avons prouvé à plusieurs reprises. C'est pour cela qu'en 5 minutes, nous vous demandons d'agir et d'interpeller les autorités iraniennes. Et vous trouverez bien sûr le mail sur notre site Amnesty que vous pouvez envoyer à l'ambassade d'Iran à Paris. Dernier, devant l'ambassade de Chine, des membres d'Amnesty International France, accompagnés de signataires de la pétition demandant la libération des détenus du Xinjiang, se sont agenouillés en combinaison bleue pour reproduire les exactions commises par le gouvernement chinois contre les Ouïghours, les Huys, les Kazakhs, les Ouzbeks et les Kirghizes. À cette occasion, les autorités chinoises ont pu prendre les slogans de solidarité pour ces populations scandées par les personnes présentes. Cependant, l'ambassade a refusé la demande de remise officielle des plus de 55 000 pétitions françaises. Ces pétitions ont par la suite été transmises par voie numérique. Les actions se poursuivent pour dénoncer les violations aux droits humains s'apparentant à des crimes contre l'humanité, identifiés dans notre rapport comme si nous étions ennemis de guerre. Il est toujours possible d'interpeller les autorités sur les cas de Mamat et d'Agbert, deux détenus des camps du Xinjiang, dont les familles vivent en France.
Alors, quelques informations sur les situations de ces deux personnes que vient d'évoquer Pascal. Donc, le premier, Mamat Ablat, des échanges à son propos ont pu se faire avec Abdulaziz, qui est un de ses frères. Il nous a expliqué qu'il avait été arrêté au début de l'année 2018 et condamné ensuite à une peine de 16 à 17 ans de prison, certainement en raison de ses pratiques religieuses et de ses contacts avec son frère à l'étranger. Il est possible que sa famille possède des documents officiels concernant sa situation, mais son frère a perdu contact avec eux et ne peut donc pas obtenir d'informations supplémentaires. Selon Abdulaziz, Mamat avait déjà été arrêté en 2015 et envoyé dans un centre de détention pour avoir, je cite, « prié chez d'autres personnes pendant le ramadan ». Abdulaziz a contacté les autorités chinoises pour avoir plus d'informations sur la raison de sa détention, mais en vain. En lieu et place, elles lui ont demandé de retourner dans la région du Xinjiang. Beaucoup d'humour, hein.
Un autre récit, celui de l'oncle d'Akber Ushur, qui est un homme ouïghour détenu. Akber a été emmené de force en mai 2017 alors qu'il travaillait dans sa boulangerie et envoyé en prison. Il a été condamné à 17 ans de prison. Des membres de la famille d'Akber ont prévenu Abdulaziz de cette condamnation 7 mois après. Ils lui ont également appris qu'Akber avait pu envoyer une lettre à son épouse depuis la prison en septembre 2017. Dans cette lettre, il lui demandait de prendre soin de leurs enfants et de ne pas se soucier de lui. L'oncle d'Akber a perdu contact avec sa famille dans le Xinjiang depuis 2019 et il n'a donc pas pu réunir plus d'informations sur la situation d'Akber. Il pense qu'il est détenu uniquement en raison de sa situation de travailleur indépendant considérée comme dangereuse et pour avoir enfreint la politique restrictive de contrôle des naissances de la Chine, alors même qu'il avait payé l'amende imposée par les autorités chinoises en 2015.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunweni wapuye, waragoweni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant 3 mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunweni wapuye, waragoweni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya. Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets quand on s'encanaille. Je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale. À force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope, citément un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunweni wapuye, waragoweni wagoka. Petit pays, quand tu pleures, je pleure, quand tu ris, je ris, quand tu meurs, je meurs, quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures. Petit pays, je t'aime, ça j'en suis sûr. Warapunweni wapuye, waragoweni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Bien toujours à l'écoute de Radio Albigès avec le groupe Amnesty International d'Albi pour les chroniques amnestiennes que nous faisons chaque mois sur les droits de l'homme dans le monde. Et nous allons aborder maintenant la criminalisation des manifestations, des manifestants en France, bon, qui se manifestent de plus en plus. Dès septembre 2020, Amnesty International a publié un rapport intitulé « Arrêtés pour avoir manifesté ». Il dénonce les arrestations de milliers de manifestants pacifiques en France et lance une pétition adressée à Emmanuel Macron pour lui demander d'abroger ou modifier les lois qui permettent aujourd'hui ces arrestations et poursuites abusives. Un an plus tard, près de 110 000 personnes l'ont signé, cette pétition, et pourtant, le président n'a donné aucune suite à nos demandes pour protéger ce droit de manifester. Nous allons donc entamer une seconde phase de mobilisation, donc sous forme d'un plaidoyer local, auprès de nos députés pour les sensibiliser sur ce droit de manifester et leur faire part de nos recommandations. Donc vous trouverez sur le site les informations concernant ces démarches. Mais peut-être pour nous encourager à continuer à cette mobilisation, une victoire a eu lieu quand même sur ce droit de manifester avec l'exemple de Frédéric Vuillaume. Il est syndicaliste, lui, à Besançon, et il est l'un des cas emblématiques de la criminalisation dont sont victimes des milliers de manifestants pacifiques en France. Donc son témoignage est mentionné dans le rapport. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a subi un harcèlement continu de la part des forces de police et des autorités judiciaires françaises simplement pour avoir manifesté pacifiquement. Au tribunal de Dijon, il est poursuivi pour délit d'attroupement pour sa participation à une manifestation en décembre dernier. Le délit, c'est d'être attroupement. Le jour du procès, les équipes d'Amnesty étaient sur place et en direct du tribunal, la bonne nouvelle est arrivée, Frédéric Vuillaume est relaxé. C'est une victoire, mais c'est aussi la vôtre. Pour continuer l'information, Amnesty vient un an après la sortie du rapport de faire un documentaire, premier documentaire d'ailleurs, de 52 minutes sur le sujet qui s'intitule « Présumé coupable » et qui donne la parole aux personnes qui se sont retrouvées devant la justice pour avoir simplement manifesté pacifiquement.
Nous poursuivons sur une autre bonne nouvelle qui est le prix Nobel de la paix attribué le 8 octobre dernier aux journalistes Maria Ressa et Dimitri Mouratov. C'est la première fois que le prix Nobel de la paix revient à des journalistes. Maria Ressa, qui dirige aux Philippines un site d'information en ligne qui s'appelle Rappler, Cela fait plus de 30 ans qu'elle exerce ce métier de journaliste aux Philippines. Elle publie des articles d'investigation sur la corruption, les abus de pouvoir et sur les violations des droits humains commises dans le cadre de la guerre meurtrière contre la drogue. Sous la présidence de Rodrigo Duterte, elle a fait l'objet de menaces et poursuites judiciaires. En juin 2020, elle a été reconnue coupable de diffamation en ligne et encourt une peine de 60 ans de prison. Dimitri Mouratov, dont on a un peu plus entendu parler, il est journaliste russe à la tête du journal Novaya Gazeta. C'est un des rares journaux indépendants qui continue de demander au pouvoir de rendre des comptes. Dimitri Mouratov et ses collègues sont eux aussi la cible d'attaques, de menaces et d'emprisonnements. Il a dédié son prix, bien sûr, à ses consoeurs et confrères assassinés, dont Anna Politkovskaya, en 2006. Ces crimes restent encore aujourd'hui impunis. Il a déclaré « Ce n'est pas mon mérite personnel, c'est celui de Novaya Gazeta, c'est celui de ceux qui sont morts en défendant le droit à la liberté d'expression ». Depuis des années, Amnesty se bat à leur côté pour dénoncer les atteintes à la liberté de presse, la criminalisation des journalistes et les menaces dont ils font l'objet dans ces deux pays et dans le monde. Ce prix est une victoire pour le journalisme indépendant et la lutte en faveur de la justice et de la liberté d'expression partout dans le monde.
Quelques informations sur plus local maintenant. Prochainement, donc du 3 au 12 décembre prochain, va avoir lieu une opération internationale qui s'intitule « 10 jours pour signer ». Donc cette année, nous allons nous mobiliser de nouveau dans le cadre de cette opération pour 10 personnes ou des groupes de personnes dont les droits sont violés à travers le monde. Donc le vendredi 10 et samedi 11 décembre, vous pourrez nous retrouver à la médiathèque à Albi, mais aussi à celle du Carmo, pour signer des pétitions et défendre le droit de ces personnes. Donc vous aurez des informations plus précises sur les 10 situations que nous vous proposerons d'appréhender. Donc, mais nous en reparlerons un petit peu plus longuement au cours de notre émission le mois prochain.
Une autre manifestation, le concours Plume Rebelle 2021. Dans le cadre des rencontres Plume Rebelle, lire, écrire, débattre, illustrer, qui auront lieu du 4 au 6 février 2022 à Besançon, pour la région Franche-Comté, la région Alpes et Provence d'Amnesty International France, organise un nouveau concours de nouvelles et d'illustrations autour des droits humains. Il est ouvert aux élèves de collège et lycée, aux étudiants et aux apprentis. Alors pour le Tarn, deux classes d'un collège de Gaillac se préparent à y participer et nous y sommes intervenus pour cela dans ces classes de 5e et 3e. Leur sujet pour les nouvelles, comment améliorer le monde en militant pour le respect des droits humains? Et le deuxième sujet, l'eau, un bien commun pour l'humanité, comment le préserver? Nous leur souhaitons bonne chance.
Nous arrivons à la fin de notre émission. Donc, les droits humains dont on a parlé doivent progresser, puisque vous avez vu que nous avons quelques exemples où ils sont très très bafoués, voire violés. Il faut continuer à agir avec Amnesty International pour faire pression partout dans le monde sur les autorités pour que cessent ces atteintes aux droits et libertés. Donc, nous vous donnons rendez-vous bien sûr pour cette opération 10 jours pour signer à Albi et Carmo en décembre prochain, nous en reparlerons. Mais vous pouvez déjà intervenir sur les situations que nous venons de vous présenter en signant les pétitions qui sont en ligne sur le site d'amnesty.fr, en particulier l'exécution du jeune prévu en Iran condamné à mort. Si vous souhaitez agir avec nous, avec le groupe d'Amnesty, eh bien envoyez-nous un courriel à notre messagerie albi@amnestyfrance.fr. Nous prendrons alors contact avec vous. Merci de nous avoir écoutés et de nous faire part de vos commentaires et suggestions à cette même adresse. Et n'oubliez pas, vos signatures ont du pouvoir.